on fait un impôt JO, on va pas faire ça. Non, mais évidemment, non. Donc, ça, on a exclu.
Ah, si, si, faites ça, c'est vrai. Non, tout va péter.
Bah, voilà.
Non, mais voilà, c'est sûr,
donc,
à la révolution.
Donc, c'est pour
là.
Ce genre de réaction qu'on n'a pas fait ça. Et donc, on a dit, par exemple, il y avait un truc qui coûtait 200 millions. Ouais. J'étais pas là, mais j'assume. C'est le coût des transports renforcé pendant cette période. Et je prends juste un exemple, je suis trop long. Mais si on voulait faire payer les 200 millions d'euros autrement qu'aux touristes, ça serait 6 euros de Navigo en plus toute l'année pour tout le monde. On veut pas faire ça.
Moi, je veux donc pas ce faire. Sera juste Navigo plus cher, mais pendant moins de temps.
Oui, mais pas pour les abonnés du Navigo. Si vous avez un Navigo annuel ou mensuel, ça bouge pas. Hein.
Ah.
Non, mais ça bouge pas, il faut le dire.
D'accord, je croyais que ça allait augmenter pour les Français.
Pourquoi ça n'a pas été assez dit clairement. Ça bouge pas. Votre d'accord. Navigo annuel et votre Navigo mensuel, il ne va pas augmenter avec les JO. Okay, il n'y aura d'accord. pas un Navigo à prendre pour les JO. Vous
d'accord,
aurez
d'accord.
votre. C'est pour la personne qui n'est pas francilienne, qui arrive là pour les Jeux. Bah, elle va acheter un billet, ça coûte 10 euros par jour. Honnêtement, quand vous avez payé vos places pour les JO, etc., et l'hôtel, c'est pas indécent. Bon. Et de manière générale, d'ailleurs, je pense qu'on est très généreux avec les touristes qui viennent dans notre pays, qui ne payent oui. pas beaucoup de taxes de séjour, ils ne payent pas beaucoup de billets de transport, etc. Donc, bon,
je pourrais les faire participer un peu plus, je suis bien d'accord.
Et par ailleurs, on investit
dans cette,
non, mais on investit dans cette période. Je prends juste un exemple, c'est la ligne 14. Je ne veux pas être trop parisien
oui.
ou francilien.
Je vais vous en parler, monsieur le ministre.
Voilà, parce qu'elle est fermée en ce moment à certains jours.
Jusqu'en avril.
Oui. Bah, pourquoi on fait ça? Pas que pour les JO, parce qu'elle est prolongée. Il y a une station supplémentaire. Non, mais on pourra aller en métro 14 automatique à Saint-Denis, une station de plus au nord, et à Orly, 7 stations de plus au sud. C'est des millions de personnes desservies en plus. Bon, bah, les travaux et l'amélioration du réseau dans 6 mois, ça ouvre en juin. C'est vrai que c'est emmerdant à court terme parce qu'il faut fermer.
On a un petit retard, on est d'accord sur la ligne 14.
Ah bah non, on n'a pas de retard parce que si on a retard, on a un problème. Donc je vous assure qu'on va la tenir en juin parce qu'elle doit être ouverte pour les Jeux.
Parce que la fermeture jusqu'en avril n'était pas annoncée à la base. On nous avait parlé jusqu'à décembre.
Non, parce qu'il y a un programme de test des trains qui est prévu jusqu'en avril.
C'est technique.
Et les fermetures, elles sont annoncées 3 mois à l'avance.
Toi, tu connais les plannings de fermeture.
Ouais,
en fait, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Monsieur le ministre, je vais essayer vraiment d'être un petit peu cadré dans mon expression. C'est vraiment compliqué. Je salue vraiment toutes les personnes qui m'ont écrit en sachant que j'allais vous voir ce soir. Parce que j'ai vraiment tellement de choses à vous dire. Je vais vous raconter ma petite histoire personnelle. J'ai été victime d'un accident de voiture quand j'étais petit. Donc la voiture a été vraiment un traumatisme pour moi. Donc je suis un usager des transports. Sachez que je suis en train de passer le permis en ce moment et que je vais prendre une voiture, tellement les transports parisiens sont devenus en réalité aussi un traumatisme. Arrivé le matin sur le quai de la ligne 13, vous savez pas en fait ce que ça nous fait, mais vraiment, moi, je commence à très mal le vivre.
Pour les non-parisiens qui nous écoutent, la ligne 13, c'est la plus chargée du réseau.
C'est l'enfer. Avec une ligne de métro. Je vais pas dire où j'habite, mais moi, pour rentrer chez moi, donc j'habite en banlieue, je pense que les habitants de banlieue souffrent de cette assignation à résidence. Pour rentrer chez moi, je dois prendre la ligne J. Du transilien. Généralement, je mets 45 minutes pour partir de ce studio-là et rentrer chez moi. Je vais demander à Claire de dire au micro, Claire, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire combien de temps je vais mettre là pour rentrer chez moi ce soir ?
81 minutes.
81 minutes au lieu de 45 minutes. Pourquoi ? Parce que en ce moment, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tous les soirs à partir de 22h, je n'ai plus de train pour rentrer chez moi et je dois prendre une navette qui rallonge mon trajet. C'est le cas pour des potes qui habitent dans le 93 et qui doivent prendre le RER, qui ont aussi un trajet qui est rallongé. Donc si on prend toutes les problématiques de métro, je pense à la ligne, je les ai notées tout à l'heure, la ligne 3, la ligne 6, la ligne 7, la ligne 8, la ligne 13 et la ligne 14, la 11, la ligne 14 qui était automatique et qui devait censée nous simplifier la vie. Si je prends ça, si je prends le RER, tous les jours, mais on ne parle pas de petits problèmes qui arrivent de temps en temps. On parle du quotidien. On parle, regardez aujourd'hui, là, vous l'avez appris en fin de journée, petite fuite d'eau à Châtelet, et puis il n'y a plus de RER. Démerdez-vous pour rentrer. Donc, le métro, le RER, les Transiliens, vous nous parlez des JO, mais bordel, j'ai juste envie de vous parler du quotidien. Je m'en fous de savoir si c'est Hidalgo, Pécresse, vous.
D'accord.
Moi, tout ce qui m'importe, c'est quand est-ce que vous allez faire quelque chose, bordel. C'est tout.
Alors, je réponds là-dessus.
Oui, allez-y.
C'est vrai que c'est la galère. Alors, moi, je suis parisien depuis que je suis né. Le métro à l'heure de pointe, je prenais la 12 et la 3 quand j'étais étudiant, etc. Ça n'a jamais été génial à l'heure de pointe, soyons aussi honnêtes, parce qu'il y a le Covid entre-temps, et je ne dis pas que c'est justifié, et justifiable, je vais y venir tout de suite. Mais on a toujours eu, depuis au moins 20 ans, un métro qui est très chargé le soir, trop chargé, etc. Bon. Et puis, on a un réseau de métro qui, avec Londres, est un des plus vieux du monde. Et donc, on a des lignes super anciennes. Et les investissements sont très compliqués pour changer. Bon. Il y a en plus, en ce moment, alors c'est à la fois une pire nouvelle et une bonne nouvelle, si je puis dire, énormément de travaux. Bon. Pourquoi ? Parce que, tant mieux, là, pour le coup, il y a un réinvestissement. Après pas mal d'années, on n'a pas assez investi dans le réseau, sur des lignes du Transilien, sur des lignes nouvelles, parce que vous avez parlé de la banlieue, c'est pas exactement où vous êtes, mais le vrai drame de l'Île-de-France, c'est que le choix historique, ça a été de faire tout converger de la banlieue vers Paris. de faire aucune connexion entre les banlieues et donc de rallonger les temps de parcours, même quand ça marche, pour des gens qui galèrent énormément, qui vont du nord, de banlieue nord à banlieue sud pour bosser, etc. Bon, toutes les lignes, ce n'est pas moi qui l'ai lancé, donc je le dis avec d'autant plus d'humilité, toutes les lignes du Grand Paris vont arriver entre 2024, donc la première c'est la ligne 14 prolongée l'année prochaine, puis 15, etc. Entre 2024 et 2030, c'est un doublement du réseau. Et là, pour le coup, je le dis aussi parce que c'est du métro moderne, automatique, qui n'a pas 100 ans comme... certaines rames. Bon. Et il y a des lignes sur lesquelles il y a des investissements qui ont été retardés souvent, qui sont en train d'être mieux faits. Moi, j'ai fait un accord avec Valérie Pécresse, je ne vais pas trop dans le détail, mais pour lui apporter 1,5 milliard d'euros par an d'ici 2030 pour investir dans le métro. Alors, je vais être hyper honnête, ce n'est pas l'investissement que je fais aujourd'hui
qui va régler nos soucis demain, on est d'accord.
Je suis d'accord, et c'est le ministre des Transports de plus 2 ou plus 3 que vous inviterez, puis qui ira couper le ruban en disant « j'ai une ligne nouvelle ». Bon, bah tant pis.
Ce sera qui ?
Ben, je ne sais pas, peut-être vous, je ne sais pas.
Ah non.
Mais c'est un métier compliqué. Hein. Ouais, ouais. Bon. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est du temps long, c'est compliqué. Les investissements qu'on décide, nous, eh ben, on les a souvent 105 ou 10 ans. Moi, je vais, si je puis dire, couper des rubans pour les gens qui ont lancé le Grand Paris. Je vais les remercier. Et ça a été attendu pendant 10 ans. La ligne 14 prolongée, ça a été attendu pendant 10 ans. Et là, on est dans la dernière droite de galère. Il y a une galère supplémentaire. Là, pour le coup, on peut la résoudre plus vite, qu'on a eu en 2022 et encore un peu. C'est qu'après le Covid, etc., on n'avait pas les effectifs nécessaires.
La fameuse offre de service.
Ouais, l'offre de service qui était réduite.
Ça. J'en peux plus d'entendre la petite voix qui me parle de l'offre de service.
Alors, ça s'améliore, ce que je regarde, les empreintes. Ça s'améliore quand même beaucoup dans le bus, même s'il y a encore des galères par rapport à l'an dernier. Bon, on a moins de cas où vous aviez, on m'envoyait les photos, hein, où je le voyais à côté de chez moi, à Place Clichy, et 63 minutes, etc. Bon, pour un bus, c'est qu'un petit problème, c'est soit 6
vous
minutes.
Vous prenez des transports, vous ?
Le week-end, oui. Le week-end, oui, je prends la ligne 7, j'habite sur la ligne 7.
Je vais vous envoyer tellement de photos, monsieur le ministre, si vous saviez, c'est insupportable.
Mais allez-y, hein, je vous assure qu'il y en a pas mal que. Bon, mais et donc je prends, et en plus, on m'envoie beaucoup de photos. Donc le bus, ça va quand même mieux. Les lignes de métro, il y en a plusieurs, 5 notamment, où c'est ultra galère encore, pas mieux que l'an dernier, et pas mal où ça s'est quand même amélioré par rapport à l'an dernier. Et on est en plus dans la période où on fait beaucoup de travaux, parce qu'on va les arrêter après avril pour les Jeux, et parce qu'on aura, j'espère, notamment sur la 14, rétabli les choses. Donc je ne vais pas vous dire que ce n'est pas la galère. Je vais vous dire que ça serait, on répond à ça par l'investissement, parce que tous les gens, y compris parfois la mairie de Paris, etc., qui postent des photos en disant « vous trouvez ça normal ?» Ben non, mais nous, on est des acteurs politiques. On n'est pas des gens qui semblent des lanceurs d'alerte. On est là pour répondre à votre problème. Et moi, je vous dis ce qu'on peut faire à court terme. Ça, c'est recruter plus, parce qu'il y a encore des manques d'effectifs. Et c'est investir plus. Et ça, ça ne mettra pas 6 mois ou 1 an, ça mettra 5 ans.
Et en attendant, pendant que d'autres dites « faites mieux », vous, vous me dites « tenez bon ». C'est ça.
Je dis aussi, on doit faire mieux. Non, je, Mélenchon là-dessus, je vais reprendre sa phrase une fois.
Wow.
Le faites mieux, ça s'applique à moi. Je ne vais pas vous faire le coup de Pécresse, machin, etc. Moi, Pécresse, ce n'est pas ma sensibilité politique. Quand je suis arrivé, on ne s'entendait pas très bien. Bon, j'avais beaucoup tapé sur elle pendant la campagne présidentielle parce que je bossais pour Emmanuel Macron. Bon, voilà, on a un petit passif. Bon. Au départ, c'était compliqué. Et puis, à la fin de l'année dernière, je ne vous fais pas tous nos épisodes amoureux, mais à la fin de l'année dernière, on s'est dit, bon, vous êtes madame la présidente de la région Île-de-France en charge des transports. C'est elle qui organise les transports. Et moi, je suis le ministre des Transports, donc je suis un peu des comptes à rendre quand même. On va trouver un accord. C'est un accord financier pour que vous investissiez. Parce qu'elle n'avait pas les financements pour ouvrir la ligne 14 automatique l'année prochaine. Il n'y avait pas assez d'argent pour les trains. Là, il y a 55 trains nouveaux qui arrivent, qui sont en production. Je suis allé les voir jour et nuit par Alstom. Et ils seront là pour les JO, mais évidemment, ils restent après les JO. Vous avez raison, l'horizon, ce n'est pas juste les Jeux. Les Jeux, on y arrivera parce que c'est autre chose. Mais ce que je veux... Ce sur quoi je veux qu'on soit prêt, c'est les transports du quotidien. Je sais que c'est galère, je sais que c'est galère depuis longtemps, que ça s'est dégradé après le Covid, qu'on remonte un peu la pente par rapport à l'an dernier et qu'il y a encore plein de galères sur le Transilien.
On a d'autres questions à vous poser, notamment sur la transition écologique, Claire.
Oui, autre grand événement qui a eu lieu à Paris, la COP de 2015, avec un accord entre 195 pays pour rester en dessous de la barre des 1,5 degrés. COP de Dubaï, on n'y est pas du tout, on est sur une trajectoire qui est fléchée entre plus 2,1 et plus 2,8 pour le moment. Et clairement, la France n'a pas totalement, même pas du tout, fait sa part dans ce travail-là, et notamment au niveau des transports. C'est la part la plus importante de ce qu'il faut qu'on fasse pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et on est encore dans une situation où on construit des autoroutes, où il y a un manque de financement.
Notamment la 69.
La 69 en particulier.
JO et 69, ça je savais que...
Voilà, c'est le tandem en ce moment. Mais notamment, et avec des manques de moyens juste financiers, par exemple les 13 projets de RER, il y a 9 milliards sur la table, il me semble, et un seul RER en coûte 7 au minimum. Donc, La responsabilité de la France aussi qui a accueilli la COP, qui a scellé cet accord de Paris. Enfin, je veux dire, comment vous voyez votre rôle et c'est quoi votre plan pour faire mieux ?
Bah oui, là, ouais, il faut faire mieux. Je veux quand même, je ne vais pas faire de la justification etc., permanente, mais c'est important. La France est le seul, cette année, enfin l'an dernier, en 22, pays du G7 qui a réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Pardon, sur le premier sommet 2023, qui a réduit ses émissions de gaz à effet de serre.
Là, ce n'est pas une question
non,
de...
Non, mais je suis d'accord,
en
pas
fait,
assez vite.
Là,
mais...
c'est les petits pas, ça n'a plus
non, c'est
aucun
pas que des
sens.
Petits pas. On l'a fait
on ne peut pas compter sur Béchu, parce que de toute façon, il prend l'avion tous
ah,
les jours.
Ah non, ce n'est pas sympa, arrêtez, j'y reviendrai, mais
oui,
je vais essayer de répondre sur le fond. Mais on est un des pays qui a un des mix énergétiques, comme on dit, une production d'énergie la plus décarbonée. C'est le débat sur le nucléaire, mais c'est clair que ça nous décarbonne notre énergie par rapport aux Allemands. Avec le charbon,
ouais.
Le gaz. Bon, on en a beaucoup moins qu'eux. Et on fait mieux en termes de baisse. Bon, ça ne suffit pas. En gros, ce qu'il faut, c'est doubler le rythme. C'est doubler le rythme de baisse des émissions pour la France et pour les autres pays européens. Les autres, c'est encore plus. Bon. Et puis, de toute façon, moi, je n'achète jamais l'argument de... c'est l'argument du RN, d'ailleurs. En France, on ne va rien faire parce qu'on est 1%. Donc, c'est les Chinois qui vont tout faire. Vous êtes plus fort quand vous faites, vous, en France, puis en Europe, puis à l'international.
Puis on a une petite responsabilité historique aussi.
Et en plus, on ne va pas faire exactement le compte sur 200 ans. Bon, voilà. Donc, il faut le faire. Les transports, c'est un problème... au cœur de la transition écologique, j'allais dire partout, parce que les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et depuis 90, j'étais pas là, mais depuis 90, c'est là qu'on commence la référence, c'est le 1990, c'est le seul secteur en France, en Allemagne, qui n'a pas baissé ses émissions. Bon. L'industrie, ça a baissé, alors surtout parce qu'on a fermé des usines, le logement un petit peu, parce qu'on isole mieux, etc. Les transports, non, parce qu'on se déplace plus, bon. Y compris en avion. Donc, il y a une responsabilité énorme des transports, ça, c'est clair. En même temps, c'est du quotidien, on n'a pas envie de se déplacer moins. Et on parlait des transports publics, mais 85% des Français, ils se déplacent, c'est un fait, aujourd'hui en voiture.
Mais ça, c'est un fait
qui a une histoire.
L'issue d'une histoire politique et de choix politiques.
Mais bien sûr.
Est-ce qu'il faut maintenir ces choix politiques?
Non,
du coup
pas du tout.
Il ne faut pas maintenir ces choix politiques.
Simplement, je dis, c'est la base de départ. Vous ne pouvez pas nier qu'aujourd'hui, c'est 85%.
C'est vrai, oui, non, c'est vrai.
Et donc, non, mais donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une voiture tous les jours pour aller chez le médecin, pour aller au boulot.
Donc, il faut leur construire des autoroutes.
Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est que dans la stratégie de décarbonation, j'y viens, c'est maximum de ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire passer de la route ou de l'avion au train. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ces RER métropolitains dans 13 villes. Je peux revenir sur le financement. Mais ça, c'est un gros projet. En fait, c'est comme le Grand Paris. On va faire des lignes de métro supplémentaires, des lignes de tram supplémentaires, des lignes de bus supplémentaires, mais pas que à Paris, où ça sera fait largement, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, etc. Bon. Donc ça, c'est hyper important. Et ce n'est pas juste pour les gens dans les centres-villes, qui sont en général assez bien desservis. C'est pour les gens qui sont à 50 bornes ou à 80 km du centre-ville, qui, eux, sont les utilisateurs au quotidien de la voiture. C'était la France des Gilets jaunes. Eux, ils râlaient contre la taxe carbone et le prix des carburants, parce qu'ils disaient « mais moi, je n'ai pas le choix ». Il faut entendre aussi ça. Ce que je veux dire dans les 85% de voitures, c'est qu'on part de là. Et donc, on ne fera pas la décarbonation que... en disant, demain, vous aurez les transports publics. Parce que même si je construisais un réseau de transports publics super, à Paris, on y est encore, après 15 ans de démarrage du Grand Paris, à Nantes, à Bordeaux, ça prendra au moins 10 ans. Même si
parce qu'il y a des retards et parce qu'il n'y a pas eu
assez de financement. Parce que même si vous voulez accélérer, il y a des choses qui ont été faites. Heureusement, vous allez à Bordeaux, il y a un tram qui a été construit. Vous allez à Montpellier, il y a un tram qui a été construit. Ce n'est pas rien passé. Parce que je veux dire, si on veut accélérer, il faut plus de transports publics. Il faut donc de l'offre aux gens, parce que sinon, on retombe dans ce que vous disiez. S'il n'y a pas de transport public, les gens ils vont garder leur bagnole, surtout dans les zones où aujourd'hui ils partent d'un trajet en voiture. Et il faut être lucide. On ne va pas passer de 85% de déplacement en voiture à 20% en 10 ans. Bon. D'abord parce qu'on n'aura pas les bus et les métros. Donc il faut aussi qu'on décarbonne la route, c'est la voiture électrique. Pour moi, ce n'est pas contradictoire de soutenir la voiture électrique et de soutenir les transports publics. On a besoin des deux. On peut se permettre d'écarter aucun levier. Et donc, la route d'hier ne sera pas la route de demain. Vous aurez une route avec du thermique aujourd'hui, de l'électrique demain.
Elle est accessible vraiment, cette voiture électrique, pour tout le monde,
alors,
les classes populaires?
Pour moi, c'est un des combats de la transition écologique. Je ne vais pas vous faire tous les chiffres, mais dans mon budget, il y a 13 milliards d'euros. Les 8 milliards d'euros, c'est sur, justement, décarbonation, à part le train, les transports publics, l'investissement dans le train de nuit, etc. Et puis, il y a 2 milliards d'euros, c'est sur le bonus écologique pour que ça soit moins cher d'acheter une voiture électrique. Aujourd'hui, c'est un produit de luxe, encore. Le bonus écologique, disons que ça le rend accessible à des gens qui sont, allez, on va dire classe moyenne supérieure, mais c'est encore très cher. Mais vous êtes un ménage modeste, un Français moyen, vous ne pouvez pas acheter l'électrique, c'est trop cher. Bon. Et donc, on va mettre en place une des mesures qui me tient beaucoup à cœur d'ici la fin de l'année, c'est le leasing social, où il y aura des modèles français et européens, surtout français, qui seront accessibles à 100 euros par mois. Là, ça change quand même la donne, parce qu'il y a beaucoup plus de Français qui vont avoir accès à la voiture électrique.
Quelles conditions ça, monsieur le ministre ?
Il faut être dans les 50% de ménages français les plus modestes.
Okay.
Dernière question, est-ce que vous allez annoncer l'abandon du projet d'autoroute A69 ?
Non, ça ferait peut-être plaisir à certains, mais non, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Je vais vous dire, on va arrêter des projets autoroutiers. J'ai lancé, c'est la première fois qu'on le fait, justement, la revue des projets d'autoroute pour qu'il y a une petite dizaine de projets autoroutiers qui sont plus ou moins dans les cartons en France et on va en arrêter certains.
Bon, dernier pour la route, quoi.
Non, ce n'est pas un dernier pour la route, c'est parce que je pense qu'il ne faut pas en lancer de nouveau, évidemment, parce qu'après, on a des décisions difficiles à prendre. Mais moi, je suis allé échanger avec les élus du Tarn, notamment. Et ils ne sont pas tous anti-écolo. Hein. C'est les besoins du quotidien, etc. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas juste pour une entreprise, etc. Tous les maires, les petits maires, etc., ils sont pour cette autoroute à 80%. Bon. Et ils me disent, mais attendez, il y a un moment, on parlait d'extrême droite, il y a un sujet de parole politique. Le Premier ministre Jean Castex, j'étais dans son gouvernement, je n'étais pas encore ministre des Transports, il est venu deux fois, il nous a dit deux fois, l'autoroute, elle arrive.
Alors, c'était pareil avec Notre-Dame-des-Landes.
Oui, d'accord, mais
promis,
je pense...
Ça a été surpromis, repromis.
Parce que le truc, c'était tellement enlisé qu'on ne pouvait plus avancer.
Et là, la tour 69, ce n'est pas enlisé ?
Non, ce n'est pas enlisé, je ne crois pas. Et c'est important parce qu'on peut penser ce qu'on veut de ce projet autoroutier là ou pas. Il faut en faire moins, il faut en arrêter certains, il ne faut plus en lancer. Ça, je suis entièrement d'accord et mettre notre argent sur les transports publics. En considérant qu'il y aura quand même besoin de crédit pour la route parce qu'il faut entretenir des routes et les routes avec des voitures électriques. La 69, j'aimerais bien qu'elle soit justement l'autoroute exemplaire avec des cars express, avec des péages qui soient beaucoup moins chers, voire nuls pour les voitures électriques, etc. On peut faire ça aussi. Ce n'est pas la même autoroute aujourd'hui et il y a 50 ans.
Bon. Mais vous pouvez le faire sur les autoroutes existantes.
Oui, d'accord. Il faut le faire aussi sur les autoroutes existantes. Mais avec un projet nouveau, vous mettez de nouvelles règles, un péage, etc. Donc, ça n'empêche pas. Donc ce que je veux dire, c'est que la route, ce n'est pas l'ennemi, c'est la décarbonation en soi. On va faire les deux. On va aussi décarboner la route. Ça, c'est super important.
Mais cette autoroute, elle ne peut déjà pas être exemplaire. Il y a eu des centaines d'arbres qui ont été abattus en cours de route. Il y a un problème de biodiversité, alors, pas seulement de décarbonation.
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il en faut moins au total. Après, il ne faut pas non plus faire de la 69 le symbole de tout le réchauffement climatique mondial. Il y a 200 arbres...
Il y a Christophe Béchu aussi.
Il y a 200 arbres qui ont été... Vous êtes dur. Il y a 200 arbres qui sont abattus. Des arbres, ce qu'on appelle d'alignement, les beaux arbres qui sont le long des routes. Bon, on en replante 5 fois plus. Un arbre ne vaut pas un arbre parce qu'un jeune, ce n'est pas comme un vieil arbre, etc. Okay. Mais vous savez combien on plante d'arbres chaque année dans le Tarn, le département où il y a l'autoroute ? 45 000. Donc, que ça soit bien ou mal, on peut en discuter. Mais on ne peut pas dire que c'est l'A69 qui est la source de tous nos maux et le symbole de tous nos maux. Ce n'est pas vrai. Après qu'il faille arrêter de lancer les projets autoroutiers, on est d'accord parce qu'il y en a qui ont été lancés. Tous ceux dont on parle aujourd'hui qui sont en débat, ils ont 20 ou 30 ans. Donc si on veut préparer l'avenir dans 20 ou 30 ans et pas se retrouver à avoir que des mauvais choix, en train de renier une parole ou faire des choix qui sont discutables, il faut qu'on change vraiment de modèle.
Merci Clément Beaune d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Bex.
Merci à vous.
Vous pouvez l'applaudir, merci beaucoup. Clément Beaune, je vais vous laisser quitter le plateau.
Merci.
Merci d'être venu. Clément Beaune, donc, ministre des Transports qui était notre invité politique cette semaine. On va conclure cette émission, mes chers amis. Je vous rappelle que cette émission, elle était en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre qui organise le 15 et 16 décembre prochain au Bataclan un festival qui s'appelle La Nuit de la Rue avec du rap et des musiques urbaines. Si vous voulez y aller, je vous rappelle que les donateurs de Backseat, les abonnés qui donnent à Backseat ont reçu un mail avec une promo à 20%. C'est uniquement pour vous. C'est un cadeau pour les donateurs de Backseat sur KissKissBankBank. Checkez vos mails si vous voulez aller vous ambiancer et soutenir la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que ça vous a plu, les amis ?
Oui, très belle émission.
C'est chouette, ça vous a plu ? On avait du temps cette semaine, c'était bien.
C'était cool.
C'était vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, ouais, vraiment, merci à vous. C'était très, très chouette.
Avec plaisir.
Merci le public d'avoir été là, c'était vraiment super. Merci beaucoup à vous. Et on va s'arrêter là, tout simplement. Merci à toutes et à tous. Salut, bye bye.